plus profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelle et fiction imaginaire, enquête sur d'étranges affaires. Bonsoir tout le monde, c'est le rendez-vous insolite de notre soirée et vous pourrez entendre la télépathie de l'allumette, puis le mystère des plus insolites. Si vous saviez ce qui tombe du ciel, c'est hallucinant. La télépathie de l'allumette. Le 2 février 1966, dans son laboratoire new-yorkais de Times Square, Cliff Baxter, ingénieur travaillant pour la CIA en tant que spécialiste des interrogatoires, eut une idée saugrenue, ayant inventé un détecteur de mensonges particulièrement efficace, le Baxter Zone Comparison Test. Il brancha les électrodes de son appareil sur une plante verte qu'il venait d'arroser afin de mesurer les réactions à la montée de l'eau depuis les racines jusqu'aux feuilles. Précisons que le détecteur de mensonges qui porte son nom enregistre les variations de la pression sanguine, les changements de fréquence du pouls et les fluctuations du rythme respiratoire, très utile pour savoir si le sujet dit la vérité, la déforme sciemment ou entre en conflit avec elle. Ces électrodes fixées aux longues feuilles de son Draca Ena, Baxter fut surpris de constater sur l'enregistrement graphique un brusque changement de tracé, comparable à celui d'un sujet humain manifestant la peur de se trahir. Me s'agissait-il d'une réaction de la plante à la pose d'électrode? Quand on demande à un suspect s'il a tiré le coup de feu qui a tué John Smith et que c'est bien lui qui en est l'auteur, la question sera perçue comme une menace à son bien-être et produira une réaction qui se lit sur le graphe, explique Baxter. Je décidai donc de trouver un moyen de menacer le bien-être de la plante pour tenter de reproduire cette réaction. Je ne parlais pas aux plantes, pas à cette époque du moins. Alors comme substitut de menace, j'ai immergé le bout de la feuille voisine de l'électrode dans une tasse de café bien chaud. Aucune réaction. Si ce n'est à mesure que le café refroidit, une descente régulière du tracé, équivalent chez l'humain aux signaux de la fatigue ou de l'ennui. Au bout d'un quart d'heure, déçu, le tortionnaire se dit qu'il va passer au grand moyen pour perturber la plante, craquer une allumette et enflammer une de ses feuilles. Au moment où il émet cette pensée, c'est-à-dire à l'instant même où l'image se forme dans sa tête, le stylo enregistreur du polygraphe se déplace brusquement jusqu'au sommet du tableau. La plante a-t-elle capté l'intention, perçu l'image mentale et la menace qu'elle représente pour sa survie? Profondément troublé, Baxter va dans le bureau voisin et prend des allumettes dans un tiroir. Quand il revient, la plante produit à son approche le même pic d'excitation spectaculaire sur le graphique. Il gratte une allumette, l'approche d'une feuille sans la toucher, puis l'éteint. Il renonce à brûler un végétal aussi expressif. Aussitôt le tracé redevient normal. Son assistant, lorsqu'il arrive une heure plus tard, le trouve prostré devant la plante verte. Baxter, sans rien lui confier de ses résultats inconcevables, l'invite à reproduire l'expérience. Sur le graphique, le Draca Ena manifeste exactement la même réaction que lors de la première agression télépathique. Durant 40 ans, Baxter reproduira des milliers de fois ce genre d'expérience, en allant beaucoup plus loin pour mettre en évidence ce qu'il baptisera d'abord la perception primaire, puis, le dialogue s'intensifiant, la biocommunication. Avec un effet secondaire inattendu sur les plantes, chaque fois qu'elles se croyaient menacées, on observait chez elle ensuite un accès de croissance inhabituel, environ 2 cm d'expansion après chaque expérience. Alors, si la peur donne des ailes, pourquoi ne fera-t-elle pas pousser les feuilles ? Dans son livre, Baxter ira jusqu'à écrire « Je me suis même demandé si les plantes pouvaient, elles aussi, avoir un problème d'ego. » Bien évidemment, dès qu'il publia ses travaux, vous vous en doutez, la communauté scientifique en fit des gorges chaudes et le tourna en ridicule, jusqu'à ce que ses résultats, 30 ans plus tard, fussent reproduits, validés, confirmés, justifiés par diverses théories. On vient même d'en tirer une application inattendue. Un système d'alarme végétale. L'ingénieur Jacques Collin, préfacier de l'édition française des études de Clive Baxter, révèle que des capteurs détectant les différences de potentiel électrique ont prouvé en 2013 qu'une plante d'appartement habituée aux êtres humains avec qui elle cohabite émet un signal particulier quand survient un inconnu. Il a suffi de connecter ces feuilles à la centrale d'alarme, elle-même reliée au téléphone portable du propriétaire, pour mettre au point un détecteur d'intrusion totalement bio. Fantastique. Mais les mentalités étaient beaucoup moins ouvertes et pragmatiques dans les années 1970, lorsque Clive Baxter publia ses découvertes dans une prestigieuse revue scientifique. Seul le professeur Harold Burr, de l'université de Yale, l'avait précédé sur cette voie périlleuse, et de manière beaucoup plus classique. Il s'était contenté de mesurer l'activité électrique des arbres en relation avec les éruptions solaires. Mais Burr, en démontrant que toutes les choses vivantes possèdent des champs électrodynamiques aux interactions quantifiables par un voltmètre, avait néanmoins scandalisé la plupart de ses collègues universitaires qui avaient tout fait pour le réduire au silence. Lorsqu'il assista aux expériences de mesures télépathiques sur les plantes, il se déclara donc aussi enthousiaste qu'inquiet pour Clive Baxter face aux retombées de ses découvertes. « Bon courage, conclut-il avec une moue pessimiste. Vous allez en prendre plein la gueule. » La réaction de ses pairs lui donna très vite raison. Il faut dire que cette perception primaire qu'avait détecté Baxter chez les végétaux souffrait au premier stade de ses travaux d'un vrai problème de reproductibilité. Lorsque d'autres chercheurs tentaient de refaire son expérience, cela ne marchait qu'une fois de temps en temps. Donc, pas vraiment scientifique. Baxter expliquait ses ratages avec un argument aussi simpliste qu'imparable. Si l'expérimentateur n'exprimait pas une intention réelle de torturer la plante, il n'obtenait pas de réaction de peur sur le graphique. Une totale sincérité, une vraie spontanéité de l'image mentale émise était indispensable pour engendrer une peur végétale qui soit mesurable par des appareils. On ne ment pas aux plantes. Comme Baxter demeurait à l'époque le seul à même de réussir parfaitement sa démonstration en public, avec un protocole et des conditions techniques irréprochables, les associations de sceptiques mirent alors un soupçon assez saugrenu pour des esprits rationalistes. Baxter faussait ses résultats au moyen de la psychokinèse. C'est lui qui faisait bouger mentalement le marqueur par la force de sa pensée. Inconsciemment ou non, il voulait tant que son expérience réussisse que son cerveau envoyait des ondes vers le polygraphe. C'est cette activité psychique que la machine enregistrait. Assez troublé par l'argument, on comprend. Baxter entreprit de contrer l'objection en automatisant ses expériences. Par exemple, il partait se promener avec dans sa poche un minuteur de déclenchement aléatoire. Dès que la sonnerie retentissait, en n'importe quel moment, le chercheur faisait demi-tour et regagnait son labo. Chaque fois, ses plantes de bureau, qu'il avait reliées à un électroencéphalographe, réagissaient à l'instant précis où il rebroussait chemin. Témoin, l'heure enregistrée par l'EEG et celle inscrite dans la mémoire du minuteur. Cette expérience-là a toujours été reproductible. Son protocole et ses résultats sont semblables à ceux par lesquels le biologiste Rupert Sheldrake a prouvé le lien télépathique entre le chien et son maître. Mais quelle est la nature de cette onde mentale que capterait la plante ? Alors, plein mystère. Les expériences de Baxter établissent que le signal ne faiblit pas avec la distance. Il n'est donc pas de nature électromagnétique. D'ailleurs, il est impossible de le stopper, même si le sujet humain et la plante se trouvent isolés dans des cages de Faraday. Conclusion de Cliff Baxter, le signal ne se déplace pas vraiment, mais se manifeste simplement en différents endroits. S'il était électromagnétique, il voyagerait à la vitesse de la lumière. Les retards biologiques consommeraient plus que la fraction de seconde qu'il faut au signal pour se déplacer. Les physiciens quantiques me confortent dans l'opinion que le signal est indépendant de l'espace et du temps. Mais cet infatigable chercheur ne s'est pas contenté d'allumer des plantes par la pensée ou de cultiver avec elles des liens télépathiques. Il a également mesuré les réactions qu'elles manifestent à certains événements singuliers, comme l'agonie des crustacés. La perception primaire déboucherait-elle sur une forme d'empathie, de solidarité? Apparemment oui. Ayant mis au point un système automatisé pour faire tomber de façon aléatoire des crevettes vivantes dans une casserole d'eau bouillante, le chercheur et son équipe ont pu enregistrer chaque fois une réaction significative des plantes situées à l'autre bout du laboratoire. Question, à quoi réagissaient-elles? À la douleur animale? Au phénomène de cuisson? À la libération d'une petite âme de crustacés ébouillantée? C'est grâce à un yaourt que Baxter a pu finalement établir que ces réactions de télé-empathie se produisaient au niveau des bactéries et que leur système de perception et de transmission à distance reposait non pas sur un signal électromagnétique, mais sur les ondes scalaires, cette énergie du vide découverte dans les années 1930 par Nikola Tesla. Ainsi, de communication végétale en interconnexion avec des produits laitiers, Cliff Baxter, ce spécialiste du détecteur de mensonges, classé durant 30 ans parmi les 12 illuminés de la parascience, fut amené à découvrir une propriété fondamentale des cellules humaines, véritable révolution au sein de la biologie. On fait une petite pause musicale et on digère toutes ces données. Passons maintenant à notre deuxième enquête, un peu plus inquiétante, carrément étrange. Le mystère des pluies insolites. Alors pour ceux qui viennent d'ouvrir leur récepteur radio, sachez que vous êtes sur CFM 90.2 et que vous écoutez au plus profond des ondes une émission qui s'adonne à quelques enquêtes qui touchent le paranormal ou l'insolite. ou quelques œuvres littéraires un petit peu insolites. Aujourd'hui donc, le mystère des plus insolites. Vous savez, les Gaulois ne craignaient qu'une seule chose, que le ciel ne leur tombât sur la tête, c'est fort connu. Alors si ces guerriers sans peur se moquant de la mort éprouvaient une telle frayeur quant à notre voûte céleste, ce n'était sans doute pas sans quelque bonne raison. Certains ont évoqué une pluie de météorites incandescentes qui, en des temps reculés, se serait abattue sur l'ouest de l'Europe. Mais il est également possible que nos lointains ancêtres aient été épouvantés à la vue de ces pluies improbables qui ont jalonné notre histoire depuis la plus haute antiquité. Car il est un fait qu'à plusieurs reprises, le ciel, qu'il soit rempli de sombres nuages ou d'un bleu immaculé, a déversé sur le sol de notre terre quantité de liquide, de matière organique, d'animaux vivants ou morts, de pierres, qui n'étaient pas des météorites, et bien d'autres choses encore. Très étrange. Alors le premier ouvrage à nous rappeler l'existence passée de ces pluies, entre guillemets, miraculeuses ou infernales, vous les appelez comme vous voulez, est bien entendu la Bible. Si ce livre hors du commun, avec de multiples niveaux de lecture, est avant tout chargé de symboles, il contient également, n'en doutons pas, des faits purement historiques. C'est ainsi que nous pouvons y découvrir plusieurs passages relatifs à une pluie de nourriture, appelée, dans la Bible, la manne, survenue lorsque le peuple d'Israël traversait le désert et souffrait de la faim. Citons les Écritures. Yahvé dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. » Les gens sortiront et recueilleront chaque jour leur ration du jour. Exode, chapitre 16, verset 4. Yahvé parla à Moïse et lui dit, « J'ai entendu les murmures des Israélites. Parle-leur et dis-leur. Au crépuscule, vous mangerez de la viande, et au matin, vous serez rassasiés de pain. Vous saurez alors que je suis Yahvé, votre Dieu. » Le soir, des cailles montèrent et couvrirent le camp, et au matin, il y avait une couche de rosée tout autour du camp. Cette couche de rosée évaporée apparut sur la surface du désert quelque chose de menu, de granuleux, de fin comme du givre sur le sol. Lorsque les Israélites virent cela, ils se dirent l'un à l'autre « Qu'est-ce que cela ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit « Cela, c'est le pain que Yahvé vous a donné à manger. » La maison d'Israël donna à cela le nom de manne, qui veut dire caisse. On eût dit de la graine de coriandre, c'était blanc et cela avait un goût de galette au miel. Or, des siècles plus tard, la manne allait refaire parler d'elle. Des substances comestibles tombèrent en effet en divers endroits de la planète, touchant pratiquement tous les continents. Ce fut notamment le cas en Perse, pays correspondant aujourd'hui à l'Iran, où, en 1829, il plut des particules semblables à des graines. Incapables d'identifier cette matière, les Persans constatèrent cependant que les moutons n'hésitaient pas à s'en nourrir. Et aussi décidèrent-ils d'en manger à leur tour. Après avoir réduit cette substance à l'état de farine, ils la firent cuire sous la forme de pain qui s'avérèrent tout à fait mangeables, bien que dépourvus de goût. Officiellement, la manne qui fut déversée en Perse et en Turquie était une sorte de lichen provenant des steppes d'Asie mineure. Thèse fort peu crédible, car autant que l'on sache, le lichen ne ressemble en rien à des graines. Et cette explication que l'on voudrait appliquer aux mannes déversées en des lieux bien plus éloigné, trouve de surcroît l'obstacle des distances. On voit mal, par exemple, comment ce lichen asiatique aurait pu être transporté de son lieu d'origine jusqu'au Canada. À une époque antérieure, plus précisément en 1686, il tomba dans le Wiltshire, au sud-ouest de l'Angleterre, des graines de blé. Particularité de ces graines, chacun d'eux était enchâssé dans un grêlon. Un an plus tôt, en 1685, les comtés de Tipperary et de Limerick, en Irlande, furent partiellement recouverts d'une étrange matière molle, gluante et jaune foncé, sentant très fort, dont le ciel s'était épanché sous forme d'averse. Voyant que le bétail mangeait ces morceaux de beurre, entre guillemets, de l'épaisseur d'un doigt, les habitants des lieux touchés par ce phénomène en recueillirent des pots entiers et ne tardèrent pas à découvrir des vertus médicinales à cette substance. Concernant ces nourritures du ciel, signalons encore cette pluie de haricots, survenue durant l'été 1971, au-dessus d'une ferme du nord-ouest du Brésil. Après analyse, on s'aperçut que cette espèce de haricots avait pour origine l'Afrique occidentale. Bien plus étonnant encore, fut cette pluie de viande qui, le 3 mars 1876, vint frapper un champ proche d'Olympian Springs, dans le Kentucky. Alors que le ciel était d'un bleu azur, sans l'ombre d'un nuage, des morceaux de viande de 5 à 10 cm carrés tombèrent lentement à la façon de flocons de neige sur une étendue d'environ 5000 mètres carrés. La viande en question, semblant parfaitement fraîche, un de ceux qui enquêtèrent sur cette affaire, faisant preuve d'un certain courage, décida d'en goûter. Pour lui, cette viande se rapprochait sensiblement de celle du mouton ou du gibier. L'explication scientifique qui fut donnée à ce phénomène, digne des plus grandes trouvailles de nos modernes esthéticiens, nous laisse presque sans voix. Voilà l'explication. Comme le bien entendu est faute d'avion à l'époque, il s'agissait d'une nuée de buses qui gavait de nourriture avait dégorgé au même moment. On en rit. En effet, que le lecteur s'imagine plusieurs milliers de buses volant en formation, régurgitant leur précieux repas sur une cible déterminée et sans doute sur ordre de leur chef d'escadrille. Non, non, c'est improbable. Un tel spectacle aurait été au moins aussi incroyable que la chute des morceaux de viande. À l'évidence, les scientifiques du XIXe siècle, à l'instar de leurs successeurs, étaient déjà dotés d'une imagination débordante et ne craignaient en rien le ridicule. Pour reprendre les mots de Charles Fort, nous savions au départ que la science et l'imbécilité étaient contiguës, mais d'aussi nombreuses expressions de leurs points de jonction finissent par stupéfier. Parfois, les pluies de viande furent accompagnées de pluies de sang. Tel fut le cas le 17 août 1841. Des ouvriers agricoles travaillant dans un champ de tabac dans le Tennessee eurent leur attention attirée par le bruit produit par la chute de grosses gouttes. Cette pluie toute particulière, émanant d'un nuage de couleur rouge sombre situé à la verticale, laissait sur les feuilles de tabac d'impressionnantes taches de sang. Affolés par ce spectacle, les ouvriers s'en allèrent trouver le propriétaire, lequel ne tarda pas à venir sur les lieux accompagné d'un éminent personnage, le professeur Troost. À leur arrivée, ils purent constater que le champ, en plus d'être recouvert de sang, contenait de très nombreux petits morceaux qui s'avérèrent être de la graisse et du tissu musculaire d'origine animale. Bien plus tard, le 27 août 1968, eut lieu au Brésil, non loin de la ville de São José dos Campos, une pluie de chair et de sang qui dura de 5 à 7 minutes. Le sol d'une superficie d'environ 1 km² fut jonché de ces débris organiques. Mis à part les trois cas cités plus haut, aucune autre chute de viande n'est parvenue à notre connaissance, ce qui laisse supposer que ce phénomène demeure, somme toute, relativement rare. Il en va tout autrement des pluies de sang proprement dites, dont nous trouvons la trace dès l'Antiquité. C'est Julius Obsequent, un écrivain romain du IVe siècle de notre ère, qui, le premier, rapporta ces événements fantastiques dans son livre des prodiges, relatant les faits miraculeux ou tout simplement historiques ayant eu lieu durant les trois premiers siècles qui précédèrent la naissance du Christ, de 449 à 12 avant Jésus-Christ. La première pluie de sang dont il fait mention remonte au temps d'Hannibal. C'est en effet, sous le consulat de M. Claudius et de Fabius Labéon, qu'il tomba sur la place de Vulcain et sur celle de la Concorde et pendant 2 jours, des averses de sang. Par la suite, Julius Obsequent rappelle 4 autres pluies de sang à Préneste, à Miterne, à Luna et près de la rivière d'Agno. Nous faisons maintenant un bond dans le temps pour nous retrouver au XVIIe siècle. En ce mois d'août de l'année 1608, des pluies sanguinolentes frappèrent la côte de Provence. La ville de Toulon fut particulièrement touchée par ce phénomène qui, le 18 août 1608, avait transformé ces rues en de véritables ruisseaux de sang, faisant penser qu'une multitude de personnes avaient été égorgées. Deux jours plus tard, ces pluies atteignirent Lambesque, où il était impossible de sortir de chez soi sans être irrémédiablement taché par ce liquide rougeâtre. Alors, certains avancent des explications. Des esprits cartésiens vous diront qu'il s'agissait là de sable tout droit venu du désert du Sahara et porté par des vents puissants soufflant depuis le sud. Cependant, les témoins de l'époque affirmèrent que le liquide tombé était du sang vrai et naturel. Nous pouvons sûrement les croire, car il est impossible de confondre du sang avec cette poussière saharienne de couleur ocre. Au XIXe siècle, d'autres pluies de sang sont signalées. En 1812, la ville d'Ulm, en Allemagne, reçut du ciel une matière rouge, épaisse et très visqueuse. Bizarre. Quelques décennies plus tard, la France fut à nouveau atteinte par des pluies pour le moins inquiétantes. En effet, le 16 au 17 octobre 1846, il tomba un liquide rouge sang dont l'analyse révéla la présence de corpuscules et de 33% de matière organique. Enfin, en Cochinchine, correspondant à une partie de l'actuel Vietnam, il plut à la date du 14 décembre 1887 une substance qui ressemblait fortement à du sang coagulé. Et le 15 mai 1890, c'est le bourg de Messignadi, en Calabre, Italie du Sud, qui fut à son tour arrosé d'une humeur de couleur rouge. La pluie de sang la plus récente qui soit parvenue à notre connaissance est celle qui, au cours de l'été 2001, toucha la région de Kerala, au sud-ouest de l'Inde. Pendant 6 semaines, à partir du 25 juillet 2001, il y tomba des quantités impressionnantes d'un liquide semblable à du sang. Alors, des échantillons de ce « sang », entre guillemets, furent prélevés puis analysés en laboratoire. Aujourd'hui, nous avons des techniques modernes. Alors que l'on pensait y découvrir des particules de terre rouge qui, une fois soulevées par les vents, auraient pu colorer la pluie, par exemple, quelle ne fut pas la surprise des chercheurs lorsqu'ils s'aperçurent que les prélèvements contenaient des globules rouges ressemblant étonnamment à ceux que l'on trouve dans le sang. Toutefois, ce n'en était pas, comme l'absence d'ADN le démontra. Ces espèces de cellules avaient par contre la particularité de survivre à des températures très élevées, jusqu'à 380 degrés. On en conclut donc que ces cellules n'avaient rien de commun avec ce que l'on peut trouver sur Terre. Oui, mais alors ça vient d'où? Alors, on envisagea très sérieusement une origine extraterrestre. Et puisque nous avons lâché le mot, celui d'extraterrestre, celui qui dérange, bien sûr, entrons un moment dans le domaine de l'ufologie pour constater que les mutilations de bétail, qui est un autre mystère, ont souvent été associées au phénomène OVNI. Or, si les habitants de ces vaisseaux inconnus sont responsables de ces actes barbares, question, se pourrait-il qu'ils rejettent ensuite, depuis le ciel, le sang et les morceaux prélevés sur leurs pauvres victimes? Ce serait peut-être une explication au phénomène. En tout cas, cette idée a été reprise par des scénaristes du film La Guerre des Mondes, vous savez, réalisé par Steven Spielberg et sorti en 2005 sur le grand écran. Souvenons-nous en effet de ce passage où l'on voit des vaisseaux E.T. pulvériser du sang humain sur le sol de notre planète afin d'en modifier la flore. Bon, c'est du cinéma. Par contre, les pluies sont réelles. Alors après les pluies de sang, abordons les chutes d'une substance beaucoup plus agréable. Le lait. Oui, le lait. Pour ce faire, nous retrouvons Julius Obsequens, le fameux Romain, lequel mentionne dans son livre des prodiges pas moins de 14 pluies de lait. Ne nous donnant que peu de détails quant à ces averses, nous savons toutefois qu'elles se produisirent en Italie, le plus souvent au-dessus de Rome, entre le 3e siècle et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Plus récemment, une pluie laiteuse eut lieu le 21 janvier 2008, dans le comté de Grant, au Nouveau-Mexique. Elle laissa sur le sol de très nombreuses flaques d'un liquide blanchâtre et un peu collant. Bon, allez, du blanc nous passons au noir, avec ces pluies d'encre qui s'abattirent à 4 reprises sur Slane, en Écosse, au cours des années 1862-1863. Une douzaine d'années plus tôt, le village de Berwick, dans le comté de Northamptonshire, en Angleterre, connut une pluie similaire le 19 juillet 1850, après qu'un terrible grondement se fit entendre dans le ciel pendant une heure, trois jours auparavant. Toujours en Angleterre, la petite ville de Crowell fut recouverte le 26 avril 1884 par une substance noire venue du ciel. Le même jour, la ville de Preston se retrouvait dans une obscurité totale, le soleil ayant été complètement occulté par de sombres masses nuageuses comme on n'en avait peut-être jamais vu. Deux jours plus tard, tombée à proximité de l'église de Seton, une pluie si noire et si épaisse que les rivières alentour s'en retrouvèrent encore noircies le lendemain. Les cieux en prenant décidément en leur aise, voilà qu'après nous avoir servi du rouge, du blanc et du noir, ils nous offrent du jaune. Encore une fois, c'est Julius Obsequins qui nous signale une première pluie d'huile survenue sous le consulat de Plautius et Fulvius. Mais c'est Charles Fort, si friand de tous ces faits maudits, qui nous rapporte avec le plus de détails ces chutes de liquide de la couleur safran. Je cite. Le 14 février 1870 est tombé à Gênes une substance jaune, analysée par Bocardo, directeur de l'Institut génois, et par le professeur Castellani. L'examen microscopique révéla de nombreux globules de bleu de cobalt, des corpuscules couleur perle qui ressemblaient à de l'amido. Monsieur Bouy parle d'une substance variant du rouge au jaune tombé en quantité énorme et successivement le 30 avril, le 1er mai et le 2 mai en France et en Espagne. Cette substance qui se carbonise en dégageant une odeur de matière animale brûlée n'était pas du pollen. Plongée dans l'alcool, elle produisit un résidu de matière résineuse. Et il en était tombé des centaines de milliers de tonnes. Le 27 février 1877, eut lieu à Pekloch, en Allemagne, une autre de ces pluies improbables, d'une couleur jaune d'or. La matière qui tomba ce jour-là était composé de quatre organismes ayant respectivement la forme d'un grain de café, d'une flèche, et d'un disque et d'une corne. Bizarre, non? Bon, ça fait travailler un petit peu là-haut. On fait une pause musicale et on se rejoint tout à l'heure pour poursuivre ces fameuses pluies insolites.
My dawn is near. moon gloom, worries need a little more room. Whisper low, here I go, I will see the sunshine shine.
Alors, nous venons de parler plutôt de plus insolites liquides, rouges, blanches, noires, jaunes. Mais parfois, il tombe des choses plus solides. Attention, chute de pierre. Alors oui, voilà, jusqu'à présent, nous avons vu que le ciel pouvait déverser sur nos têtes des matières somme toute légères, donc peu dangereuses. Il en va tout autrement avec ces corps solides que la voûte céleste laissa parfois échapper. Précisons d'emblée que les corps en question n'étaient pas des météorites, très important, mais des pierres bien terrestres, voire du charbon ou de la terre. Notre incontournable Julius Obsequens signale toujours au temps de l'Antiquité romaine 4 pluies de terre et 8 pluies de pierre, dont une accompagnée par une chute de tuiles. Lorsque des pierres tombaient du ciel, les Romains voyaient en ce phénomène un malheur annoncé. Aussi, et de manière à apaiser la colère des dieux, qui leur envoyait ces signes, ils organisaient à chaque fois un sacrifice novendial, soit un sacrifice qui devait durer 9 jours. Comme d'habitude, Julius Obsequens est très laconique dans les informations qu'il nous livre. Toutefois, il précise que la ville de Rome, juste avant de recevoir un déversement de pierres, fut soudainement plongée dans l'obscurité entre la 3e et la 4e heure du jour. Il nous indique également que la pluie de pierre au-dessus d'Arpé dura 3 longues journées. Une autre chute de pierre, plus précisément de galets chauds, eut lieu à Charleston, en Caroline du Sud, le 4 septembre 1886. Cette pluie prodigieuse ne concerna qu'un espace restreint de 25 mètres carrés, localisé devant les bureaux du journal Charleston News and Courier. En fait, il se produisit 3 chutes dans la même journée, à 2h30, à 7h30 et à 13h30. Parmi les témoins de ce phénomène se trouvait l'éditeur du périodique susnommé, lequel livra son propre témoignage dans l'édition du 6 septembre 1886. Plus récemment, en 2009, des pluies de pierre se produisirent au-dessus d'Ishbhaptipur, village situé dans le district du Denkanal en Inde. Pendant plusieurs jours, les villageois assistèrent impuissants à ces précipitations surnaturelles qui blessèrent plusieurs personnes. Devant l'incapacité de la police à résoudre ce mystère, les habitants du lieu en vinrent à organiser des prières collectives. En plus des pierres, le ciel déversa des roches sédimentaires ou des produits issus de ces dernières. C'est ainsi qu'en 1827, il tomba avec grand fracas, à proximité d'Alport, en Angleterre, une matière noire, très lourde, ressemblant au charbon. Sur les morceaux ramassés, on releva la présence d'un peu de soufre. Le 24 avril 1871, c'est un combustible analogue aux coques en tout point qui s'abattit sur les bocages de l'Orne. Enfin, le 30 juin 1880, la province d'Entre Ríos, en Argentine, connut une pluie de ce qui semblait être du lignite. Et il ne tombe pas simplement que du liquide ou des cailloux. Il tombe également du vivant. Pluie de batracien. Nous en arrivons maintenant aux pluies d'animaux, dont les plus célèbres concernent les grenouilles et les crapauds. Une première chute de grenouilles et de poissons est mentionnée dans les chroniques d'hypnosophistes d'Athénée, un érudit grammarien grec qui vécut à la fin du IIe siècle et au début du IIIe siècle. Dans ce recueil d'anecdotes et de citations, Athénée rappelle un événement survenu dans la région de Chéronée, en Grèce, où des grenouilles tombèrent en si grand nombre que les routes en furent encombrées et les portes des maisons bloquées. Lorsque cette pluie, qui dura 3 jours, cessa enfin, une odeur pestilentielle régna sur la cité de Chéronée pendant plusieurs semaines. En 1683, une pluie de crapauds fut signalée au-dessus du village d'Acle, dans le Norfolk, en Angleterre. Les batraciens qui tombèrent en ce lieu étaient tout à fait vivants et se mirent envahir les maisons de la localité. Le patron du pub d'Acle, bien décidé à débarrasser son établissement de cette invasion, ramassa les crapauds par pelletées entières pour ensuite les jeter au feu. Le lendemain matin, toutes ces petites créatures avaient disparu, comme par enchantement. Au mois d'août 1804, en un lieu proche de Toulouse, on vit tomber d'un grand nuage épais et sombre une multitude de petits crapauds âgés d'un à deux mois. 32 heures plus tard, un professeur de Cahors rapportait dans une lettre en date du 11 juillet 1836 une averse quelque peu similaire. Ce nuage creva sur la route à 60 toises environ du point où nous étions. Deux cavaliers qui revenaient de Toulouse, où nous allions, et qui se trouvèrent exposés à l'orage, furent obligés de mettre leur manteau pour s'en garantir. Mais ils furent bien surpris, même effrayés, lorsqu'ils se virent assaillis par une pluie de crapauds. Ils hâtèrent leurs mâches et s'empressèrent, dès qu'ils eurent rencontré la diligence, de nous raconter ce qui venait de leur arriver. Je vis encore de petits crapauds sur leurs manteaux, qu'ils firent tomber en les secouant devant nous. De retour en Angleterre, nous apprenons que le cœur de Londres fut assailli par une nuée de petites grenouilles le 30 juillet 1838, après le passage d'un orage très violent. Toujours au Royaume-Uni, eut lieu à proximité de Birmingham le 30 juin 1892 une pluie de grenouilles blanches. De l'autre côté de la Manche, la ville de Chalon-sur-Saône connut pendant 2 jours de l'année 1922 des averses de petits crapauds. Le 12 juin 1954, on parla encore une fois de Birmingham, où la pluie qui tomba ce jour-là contenait des myriades de petites grenouilles. On pouvait voir ces batraciens rebondir sur les parapluies des passants et causer chez ces derniers un certain mouvement de panique. On les comprend. De l'autre côté de l'Atlantique, et au cours de l'année 1972, un terrain de golf situé en Arkansas fut envahi par plusieurs milliers de grenouilles que laissèrent échapper de gros nuages d'orage. Les grenouilles en question étaient toutes petites, grosses comme des pièces de 20 centimes. L'année suivante, très exactement le 23 septembre 1973, des dizaines de milliers de petits crapauds s'abattirent sur la ville de Brignoles lors d'un fort coup de vent. L'une des dernières pluies de grenouilles connues se produisit en Serbie en 2007. Les habitants de la ville d'Odzaci n'en crurent pas leurs yeux lorsqu'ils virent pleuvoir des milliers de grenouilles. Juste avant la chute des batraciens, un témoin signala avoir vu un énorme nuage aux couleurs et formes étranges sembla venir de nulle part. Pline l'Ancien expliquait ces apparitions soudaines de grenouilles par la présence d'embryons de batraciens dans le sol qui se développeraient instantanément à la faveur d'une averse. Évidemment, cette hypothèse est invalidée, car ces chutes de grenouilles et de crapauds que tous les témoins virent tomber du ciel étaient déjà tout à fait formées. Et nous n'oublions pas la présence des petits crapauds sur les manteaux des deux cavaliers en provenance de Toulouse, comme également les petites grenouilles qui, à Birmingham, rebondissaient sur les parapluies. Bien plus tard vint la thèse de la trombe d'eau. Mais cette explication officielle, ainsi que nous le verrons par la suite, ne tient pas davantage la route. Mais des fois, ça tombe encore plus gros. On nous signale également des pluies de poissons. Eh oui, après les batraciens, venons-en aux poissons. Charles Fort nous signale en Inde par moins de 3 pluies de poissons. La première eut lieu à Feridpur le 19 février 1830. Les poissons qui tombèrent en ce lieu avaient cette particularité d'être les uns parfaitement frais et consommables, alors que les autres étaient mutilés et en état de putréfaction avancée. Une première question nous vient à l'esprit. Comment se peut-il que du poisson récemment sorti des eaux ait pu se mélanger dans les airs à du poisson pourri? Étrange. À Calcutta eut lieu le 20 septembre 1839 une autre pluie de poissons pour le moins insolite. En plus de tomber du ciel, les poissons atterrirent sur le sol en droite ligne, sur moins d'une coudée de largeur. Enfin, le 25 juillet 1850, des poissons jonchèrent le sol à Rajkot, preuve qu'ils étaient venus du ciel, on en retrouva sur le sommet de Meule de Fouet. Changement radical de lieu, nous rejoignons le Royaume-Uni, où le 11 février 1859, un village proche d'Aberdeen, en Écosse, fut copieusement arrosé par une pluie de petits poissons qui recouvrirent les jardins et les toitures de maisons. Quelques-uns d'entre eux furent expédiés au British Museum pour analyse. Et selon le docteur Gray, en charge de l'identification, ces poissons, dont le plus gros ne dépassait pas 13 cm, étaient apparentés au Véron. Plus proche de nous, en 2002, le village de Corona, en Grèce, reçut lui aussi plusieurs centaines de petits poissons tombés du ciel. 8 ans plus tard, le village de Lajamanu, situé au nord de l'Australie, connut des chutes de poissons pendant 2 jours consécutifs. Et selon les dires de Christine Balmer, témoin du phénomène, il pleuvait des poissons à Lajamanu jeudi et vendredi soir. Ils tombaient du ciel partout. Les habitants les ramassaient autour du terrain de sport et par terre, partout. Ces poissons étaient vivants lorsqu'ils tombaient par terre. Les poissons récupérés de couleur blanche furent identifiés comme étant des perches pailletées. Outre le fait que Lajamanu se trouve en bordure du désert de Tanami, donc à plusieurs centaines de kilomètres du lac le plus proche, on comprend difficilement comment ces poissons, censés avoir été transportés à très haute altitude par un courant ascendant, soient retombés vivants après une telle chute. Et on notera que Lajamanu a l'habitude de ce genre de phénomène, puisque des pluies similaires s'y produisirent en 1974 et en 2004. À noter que la plus récente pluie de poissons eut lieu en Martinique, le 9 août 2012. Étrange, n'est-ce pas, tout cela? Ça laisse perplexe et ça laisse sans voix. Ça heurte notre rationalité. Que sont donc ces pluies insolites? D'où viennent-elles? Voilà, je vous laisse à vos réflexions, à vos méditations. Et bien sûr, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres enquêtes étranges et insolites. Bye bye.
yeux, lancé pour nous crever les yeux. Le soleil est un pauvre en rute qui ne manque jamais son but. La terre est un os disparu dont rêvent les chiens dans les rues. Les astres sont les bijoux d'or oubliés par la Castafiore. Les magasins sont des forges, tenus par Saint-Jean et Saint-Georges. La nuit est une femme à barbe.
Allumant les amours d'un soir.